Pourriez-vous définir le processus même de votre écriture ?
C'est un souffle, incorrigible, qui m'arrive plus ou moins une fois par semaine, puis disparaît pendant des mois. Pendant longtemps, j'ai cru qu'écrire était un travail. Maintenant, je suis convaincue qu'il s'agit d'un non-travail, d'un événement intérieur, que l'on atteint avant tout en faisant le vide en soi et en laissant filtrer ce qui en nous est déjà évident. Ce qu'il y a de douloureux tient justement à devoir trouer notre ombre intérieure jusqu'à ce que se répande sur la page entière sa puissance originelle, convertissant ce qui par nature est intérieur en extérieur. C'est pour ça que je dis que seuls les fous écrivent complètement. J'écris pour me vulgariser, pour me massacrer, et ensuite pour m'ôter de l'importance, pour me délester, que le texte prenne ma place de façon à ce que j'existe moins. Je ne parviens à me libérer de moi que dans deux cas, par l'idée du suicide et par celle d'écrire.
Fanny Ardant, ce sont les mots de Marguerite Duras, et c'est une réponse de la fin des années 80 à des entretiens. Elle vous a appris quoi, la voix de Marguerite Duras ? Et ces silences, ils vous ont appris quoi à vous ?
Plus que la voix et les silences, c'était quand je lisais les livres, c'était la ponctuation et la mise en page. On pouvait regarder un texte de Marguerite Duras comme une partition, avec la ponctuation. Et là où il y avait un blanc, il fallait le respecter. Après, sa façon de parler, justement, peut-être qu'il fallait l'oublier pour pouvoir justement la reprendre, la parole, ne pas faire une imitation. Mais ses textes, c'était avant tout une partition musicale.
Et là, elle parle de souffle dans l'écriture.
Oui, mais parce que elle parle de l'inspiration, de quelque chose qui arrive de l'intérieur, qui va vers l'extérieur. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle dit sur l'écriture, quand elle dit... Je croyais que c'était un travail, mais maintenant je suis sûre que c'est un non-travail. Comme quelque chose d'attendre en soi que ça parle. Je pense que Rilke disait ça aussi. Donc, il y avait quelque chose de plus grand qu'un écrivain peut-être qui se met dans l'état d'écrire. Et puis les dieux arrivent ou les dieux n'arrivent pas.
Bulloger, le souffle dans l'écriture et dans la vie de Marguerite Duras. De quelle façon ça a changé votre rapport au monde et peut-être au théâtre ?
Ça a changé, bien sûr, au théâtre, parce que elle m'a appris à dire les mots, à faire entendre les mots, justement en prenant des temps que les acteurs font rarement, mais des longs temps, de façon à visionner la phrase et le mot. Ça enrichit beaucoup la façon d'émettre un texte.
Il est 20h sur France Culture et à l'intérieur d'un corps, il y a du temps. Un corps sur scène, il a avec lui toutes ces années, il a surtout à l'intérieur de la durée, un juste temps à poser. Le théâtre, c'est le contraire de la vie réduite. Marguerite Duras disait, c'est l'espace majeur. Le regard est cadré, certes, la scène a des contours, mais la vie à l'intérieur est illimitée. Alors, on voit face à nous du présent, mais aussi l'épaisseur du temps. Bulogier, dans un livre de mémoire qui s'appelle « J'ai oublié », se souvient pourtant de la main de Patrice Chéreau entre ses omoplates qui l'a poussée sur scène depuis les coulisses. Elle a oublié pourquoi elle était devenue actrice, mais elle se souvient de la dispute entre Marguerite Duras et le metteur en scène Claude Régis à propos des blancs et des silences. Duras disait qu'elle cherchait à rendre le silence comme quelque chose qu'on aurait pu entendre. La vie de Bulogier, c'est de l'oubli et du silence, mais on les entend très fort. Ils sont sonores. Si elle entre sur scène, tout est présent. La main de Patrice Chéreau n'est sûrement pas loin. L'empreinte de la voix de Duras est là. Le juste temps, dans le corps de Fanny Ardant aussi. Après avoir joué ses pièces de théâtre, elle devient ses mots, elle prononce ses mots issus d'un entretien réalisé à la fin des années 80. Duras répond aux questions et parle de son rapport à l'enfance, à l'amour, à la mort, à l'écriture. La pensée de Duras, on le sait, était aussi dans l'espace qu'elle mettait entre chaque mot, qu'elle offrait ensuite au corps qui allait les incarner. Bulogier et Fanny Ardant sont deux comédiennes qui ont, même si ce soir on va les faire parler, la possibilité de rendre le silence comme quelque chose qu'on peut entendre. Nous sommes avec Bulogier qui signe un livre de mémoire, écrit avec Anne Diatkin, « J'ai oublié » vient de paraître aux éditions du Seuil. Nous sommes avec Fanny Ardant qui, du 25 septembre au 4 octobre, pour 10 représentations, jouera au Théâtre de l'Œuvre à Paris « La passion suspendue », adaptation et mise en scène par Bertrand Marcos, des entretiens avec Marguerite Duras, réalisé par une journaliste italienne entre 1987 et 1989. Il y a en studio avec nous une troisième voix, celle de la Féline, dont le prochain album s'appelle « Vie future ». Il se pose entre les souvenirs et ce qui est à venir. Elle sera en concert le 12 décembre à Paris, au Café de la Danse. C'est Tous en scène sur France Culture et ça commence par la mémoire. Vous avez quel rapport avec la mémoire et donc avec l'oubli? Parce que le livre s'appelle « J'ai oublié ». Il y a quand même énormément de souvenirs.
La mémoire, c'est une chose qui est très, très mouvante, mystérieuse. Je n'ai jamais voulu raconter quoi que ce soit, mais lorsque Anne Diatkin, à travers Mireille Paolini du Seuil, m'a proposé de faire quelque chose avec moi, je lui ai dit, écoute, c'est pas la peine, j'ai tout oublié, j'oublie. Et c'est même, j'oublie des pans entiers de ma vie. Et on est parti de là, des moments oubliés. Et petit à petit, c'était comme un jeu, on a commencé à travailler, à se voir plus exactement, quelquefois pour rien ne se passait, puis quelquefois il y avait des choses qui se passaient. Puis ensuite, y a des choses qui se sont mises en place, et puis des choses qui sont revenues. Ça m'a amusée. Ça a amusé Anne aussi. Et on avait chacune notre fantaisie aussi, qu'on a pu s'entendre sur une certaine fantaisie qui fait que je pense que ce n'est pas un livre de mémoire avec une mélancolie ou une nostalgie, mais avec une espèce de choses amusantes aussi, même quand il y a des choses de tristes et douloureuses. Mais c'est à partir des oublis que cette mémoire est revenue. Et aussi, on a fait le jeu des petits papiers, enfin, qui ressemblent un peu au cadavre exquis des surréalistes, c'est-à-dire de faire une phrase et puis rouler le papier, puis une autre phrase. Et on a fait des petits jeux comme ça.
À l'intérieur du livre, vous citez Marguerite Duras qui disait « Bulle, ce n'est pas la nouvelle vague, c'est le vague absolu ».
Ah oui, ça c'est une chose qui a été dite beaucoup. Mais Marguerite a été très forte elle avait des fulgurances comme ça. Enfin, ça l'amusait beaucoup de dire ça. Ça l'amusait. Ça la faisait rire. Parce qu'en fait, on pense toujours que Marguerite est quelqu'un qui assène des choses, qui est pontifiante. Enfin, à cette époque, dans les années 60, 70, on pensait ça. Mais en fait, c'est quelqu'un qui était très amusante. Elle était très amusante, Marguerite. On a beaucoup ri.
Et dans le livre, vous parlez évidemment de vos débuts, de vos années de cinéma, puis de théâtre. Et ce qui est étonnant, c'est que vous dites très vite, je ne sais pas pourquoi je suis devenue actrice, je ne me souviens plus.
Oui. Mais en réalité, je me souviens à l'instant que j'ai commencé en faisant des poèmes lettristes au musée d'art moderne. Alors, à l'époque, on parlait pas de performance, mais en fait, c'était une performance. Et j'ai commencé avec ces choses-là parce que je connaissais un groupe de lettristes. Donc, vous voyez.
Ça a commencé par les poèmes. Il y a un moment aussi que vous racontez.
C'est pas dans le livre, là. Là, je m'en souviens à l'instant.
À l'American Center, le metteur en scène Marco, avec qui vous allez travailler, crée une école. Et puis vous, vous êtes là, vous observez, vous êtes avec votre fille Pascale Augier qui a 2 ans. Et puis un jour, il vous dit, ça serait bien que tu traverses la Seine, ça te ferait du bien. Et là, vous traversez la Seine. Et qu'est-ce que vous ressentez?
Alors là, c'est très ancien. Franchement, je pense que je ne sais pas ce que j'ai ressenti, mais je l'ai traversé.
Ce que vous écrivez dans le livre, c'est « Je me suis sentie plein droit à ma place ». J'étais de plein droit à ma place, soudain.
Oui, bah peut-être, j'ai dit ça, oui.
Et c'est là que vous commencez à travailler avec Pierre Clémenti, Jean-Pierre Calfon.
Oui, je ne me suis pas sentie de plein droit à ma place à ce moment-là, mais petit à petit, oui.
Fanny Ardant, vous savez, vous, pourquoi vous êtes devenue actrice ?
Moi, je crois que je suis devenue actrice parce que je trouvais que tout ce qui était beau devait être partagé. Que dès que quelque chose était beau, il fallait se mettre debout sur son lit ou sur une table, comme un théâtre, et le dire aux autres. Je ne pensais pas du tout faire du cinéma. Mais que la beauté du verbe, la beauté de la pensée, la forme, la force des mots. Et voilà, c'était ça, le théâtre.
Il y a un moment où, justement, on se dit, là, je suis de plein droit à ma place.
Ah non. Au contraire, moi, j'ai toujours l'impression que je suis une forfaiture. Par exemple, je n'ai jamais aimé ceux qui s'appellent des artistes. Les artistes, c'est une fois qu'on est mort, ou ce qui restera de nous. Mais de s'appeler de soi-même un artiste, c'est toujours un énorme risque.
Et vous parlez souvent, Fanny Ardant, de ce rapport amour-haine avec le théâtre et de...
Oui.
Juste avant d'entrer en scène, la colère qui existe.
Oui.
Elle vient d'où, cette colère, encore aujourd'hui ?
De l'insupportation des choses, de la vie, des gens. Et puis tout d'un coup, comme les taureaux qui déboulent dans l'arène. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se tromper pour monter sur scène. C'est pas anodin de venir. Il faut que, comme je vous ai dit, que le texte soit magnifique. Avec toute cette colère, alors une fois qu'on arrive dans l'arène, c'est dissipé et il ne reste plus que la joie.
Bulogier, vous parlez aussi de ces entrées en scène, et notamment quand vous commencez à travailler avec Madeleine Renaud, enfin, vous faites plusieurs spectacles ensemble, et je crois que c'est Savannah B que vous décrivez juste avant l'entrée en coulisses. Madeleine Renaud, elle a souvent parlé aussi de cette angoisse incroyable avant d'entrer sur scène, et vous racontez que vous tenez sa taille. Vous vous tenez ensemble avant d'entrer.
Oui, c'est ça. C'est la peur, oui. C'est la peur et après, il faut se dire qu'on... Comme le disait Fanny, elle parle de taureau. Moi, je parle de la... C'est presque une mise à mort, quoi. Voilà. Alors, évidemment, on a très peur. Et puis après, on est comme le toréador. On fait des passes.
On va écouter la voix de Madeleine Renaud en 1983.
Qu'y a-t-il entre Madeleine Renaud et Bulogier ?
Eh bien, il y a en effet une sensibilité que je crois être la même, un amour des mêmes choses, des mêmes textes, et dès qu'on joue une scène ensemble, enfin, moi j'en suis sûre pour moi, il y a une entente, il y a un mystérieux courant qui souvent n'existe pas, même avec une partenaire qu'on admire.
Vous l'avez senti tout de suite ?
Oh oui.
C'était dans la pièce de Marguerite Duras ?
Oui, on a joué ensemble la pièce de Marguerite Duras, hein, ma chérie ?
On a joué les journées entières dans les arbres, oui. Et l'Eden Cinéma, oui. Ensemble.
C'est ça.
Et maintenant, elles vont jouer.
Merci de me dire ça, ça me donne beaucoup de bonheur.
Elles vont jouer, je crois, au mois de septembre, Savannah Bay de Duras aussi.
Mais vous l'aviez compris, Bulogier, est-ce que...
Je l'avais compris, mais c'est quand même...
Vous n'aviez pas entendu ?
Oui. Non, enfin, en tout cas, pas en public, comme ça, devant un micro.
Bien certainement, Bulogier, vous n'avez pas eu le sentiment de faire une carrière un peu marginale, un peu à côté, pour votre propre liberté, d'ailleurs ?
Mais je pense que, d'une certaine manière, je continue. En effet, moi, j'ai commencé par le café-théâtre. C'est peut-être pour ça que vous m'avez lancé cette parole. Et puis, je pense que si on continue avec Savannah B et Madeleine, c'est encore une nouvelle expérience qui n'est pas marginale, mais qui est tout de même une recherche et une expérience. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Louis.
Je dis que quand on s'obstine à rester indépendant, on est toujours marginal.
Ah. Alors, que faut-il faire ?
Il faut rester marginal.
Je vais vous dire, on est toujours marginal lorsqu'on est exigeant.
Peut-être.
Elle est tout instinct et tout amour. Voilà.
Sur... On peut s'en sortir avec ça au théâtre ?
Ah oui. Bah. D'une façon rare, d'une façon...
Ah oui, là, vous êtes très pessimiste.
Non, mais je pose la question. Je demande...
J'espère.
Cela suffit-il ?
Oui, oui, cela suffit.
C'est peut-être le tout.
Cela suffit.
Je vous voyais acquiescer, Fanny Ardant, à « Ça suffit, tout instinct et tout amour au théâtre ».
Oui, et puis j'aimais beaucoup, c'est Jean-Louis Barrault qui parlait.
Oui.
Quelle idée de... C'est comme la fable du loup et du chien, tous se payent et que c'est mieux de rester marginal mais libre que d'être commercial et vendu.
Bulogier, quand vous avez reçu la proposition de Jean-Louis Barrault de jouer des journées entières dans les arbres, je crois que c'était un moment où vous vouliez arrêter le cinéma. Puis à cette proposition, vous jouez avec Madeleine Renaud. Et là, vous racontez la façon dont vous l'observez jouer. Alors, il y a des choses très drôles. Par exemple, elle arrive à faire disparaître une choucroute sans en manger un seul morceau. Donc, il y a des choses très concrètes comme ça. Et puis aussi, vous racontez comment elle arrive à... Elle compte toutes les personnes dans le public. Et elle est capable de vous dire ce soir... Il y avait 497 personnes, ma petite chérie, dans le public.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous avez appris à observer Madeleine Renaud sur scène ?
Non, c'est pas des choses que j'ai apprises, ça, c'est des choses que j'ai observées qui m'ont amusée. Mais sa façon de jouer, d'être tout à fait vrai. Alors qu'elle faisait des textes de Nathalie Sarraute, de Beckett, de Duras, de Genet, on ne peut pas dire que c'est complètement réaliste, mais elle était quelqu'un de vrai sur scène. Et c'est pour ça qu'elle avait tellement qu'elle était tellement admirée, parce qu'elle faisait passer des courants complètement juste et vrai, et pourtant elle était suffisamment acrobate pour en effet compter les gens dans la salle ou manger une choucroute sans en prendre un seul morceau. Elle avait aussi cette chose de manipulation, elle était comme ça, double. Elle arrivait à s'extraire tout d'un coup de la pièce pendant une seconde pour regarder le public. Ce que peu d'acteurs font, mais elle le faisait aussi pour son théâtre, pour son Jean-Louis, pour voir si ce théâtre marchait, s'il était bien rempli, pour que la caisse soit bien remplie. C'était ça.
On entendait dans l'archive le fait que vous alliez jouer ensemble dans Savannah Bay en 83, et puis là, Marguerite Duras met en scène, et on va écouter un petit extrait de répétition où on entend sa voix.
Et qui chante ? Une chanteuse qui est morte. Oh. Il y a une quinzaine d'années.
On dirait qu'elle est là.
Elle est là. Alain Magra, vous avez dû chanter ça pendant plusieurs étés.
Oui, peut-être.
Madeleine, peut-être. Alain Magra, c'est sacré, hein, c'est très mystérieux. Je sais pas, vous avez dû entendre ça dans votre vie, non. C'est pendant ces vacances-là, si épouvantable, si terrible, que vous avez dû entendre ça. C'est pas par hasard qu'elle le met.
Je dis peut-être.
Oui, je te parle à toi, là, Madeleine.
Oui, peut-être.
Peut-être.
C'est là que je dis qu'elle
peut-être, tu le disais deux fois. Hein,
hein?
Tu le disais deux fois.
Ah, jamais. Pas sur mon manuscrit.
Mais, enfin, dis-le qu'une fois, mais...
Peut-être. Elle a beaucoup de talent. Oui.
Le disque était dans la maison depuis toujours. Et puis, il a été cassé.
Tu la regardes pas pour ça, c'est pas la peine. Tu es libérée, là.
Ah. Elle s'est tuée, cette femme-là.
Oui?
Celle-là qui chante, tu l'as connue?
Ah, bon. C'est ce qu'on a repris, alors moi, c'est terrible.
Mais oui, mais alors on peut pas travailler jamais, alors.
Oui, si, mon chéri, mais pas un millimètre près, tu comprends?
Si, parce que les jours passent et je ne le dis jamais. Et ça, tous les jours, j'ai voulu le dire. Bon. Alors aujourd'hui, je suis décidée à le faire, quand même.
Bien.
Sur votre demande, à toutes les deux.
Oui, oui, oui.
Pendant des mois, il m'est arrivé à moi aussi.
Oui, mais je ne l'ai pas encore dit, ça. Mais c'est maintenant que je le dis.
Et quand elle est sortie?
Ah, bon. À moi, il est arrivé aussi.
Non.
Non,
c'est pas... Tu commences comme ça, pendant des mois.
Pendant des mois. Il m'est arrivé à moi aussi de mourir sur la Seine. Des mois durant, chaque soir.
De mourir chaque soir.
Des mois durant, chaque soir. C'était à l'époque d'une très grande douleur.
Répète ta phrase, c'est pas ça.
Je vais vous la dire, madame, une fois, parce que ça...
Non.
Pendant des mois.
Pendant des mois, à moi aussi, il est arrivé de mourir sur la Seine.
En chaque soir au théâtre.
Pendant des mois, il m'est arrivé à moi aussi de mourir sur la Seine, non?
Chaque soir au théâtre.
De mourir chaque soir au théâtre. Des mois durant chaque soir.
Vous vous souvenez de ces moments de répétition, Bulogier?
J'ai oublié beaucoup de choses, mais ça, je m'en souviens.
Il y a quelque chose d'incroyable aussi. Quelques années plus tôt, c'était le Navire Night, et là, c'était monté par Claude Régis. Et vous racontez une dispute énorme entre Claude Régis et Marguerite Duras sur le sens des temps, des silences. Qu'est-ce qui s'était passé?
C'est-à-dire qu'il y avait les silences de Marguerite et puis il y avait les silences de Claude Régis. Donc ça faisait une addition de silences. Michael Lonsdale et moi-même, on ne savait plus quel silence adopter, si c'était celui de Régis ou si c'était celui de Marguerite. Et ça a duré jusqu'à la première, comme ça. C'était très, très angoissant, très troublant. On oubliait notre texte du coup, puisqu'on savait plus quel silence il fallait faire. Et c'était pas vraiment une dispute entre Claude et Marguerite, c'était juste qu'ils avaient pas les mêmes moments de silence, les mêmes longueurs. Et évidemment, ça a fait le résultat était assez bizarre le jour de la première, parce que Claude pensait qu'on savait pas notre texte. Alors à l'autre bout de la salle, il était à l'autre bout de la salle, il nous soufflait. Donc, nous-mêmes, on ne savait pas comment enchaîner, sur quels mots et après quel silence. Alors, tout ça, ça fait que, d'une part, les gens trouvaient que c'était d'une avant-garde fantastique, que c'était magnifique, c'était très, très gonflé, vraiment une invention extraordinaire. Et puis il y avait l'autre partie du public qui comprenait que c'était il y avait des choses qui fonctionnaient pas du tout, quoi. Et ça a été assez douloureux. Oui, ça a été très douloureux même. Et pendant ce temps, Marie-France, qui jouait aussi, qui avait des déplacements sur les silences, savait plus comment se déplacer. Donc, c'est vrai que le théâtre de Régis et le théâtre de Marguerite se rejoignent là-dessus, et c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de choses ensemble aussi. Mais là, il y avait accumulation et complications, d'autant plus que Marguerite, jusqu'au dernier jour, changeait son texte, remplaçait un mot par un autre.
Fanny Ardant, vous aviez déjà entendu Marguerite Duras en répétition?
Non, mais ça me fait beaucoup rire, moi. Et je trouve tout ce que dit Bulle, et ça va dans le sens où je pense, moi j'aime beaucoup tout ce qui est le chaos. Et j'aime tout ce qui me fait rire au théâtre, c'est l'importance que prennent les gens. Donc quand vous venez de dire, tu vois, il y en avait un qui pensait le silence, l'autre qui... Donc moi j'aime beaucoup, beaucoup quand les répétitions deviennent invraisemblable, chaotique, où plus rien n'existe, où rien n'est vraiment important. Et puis tout d'un coup, il y a toujours la magie d'un jour J. Mais ce que vous avez dit sur le public, il croyait que c'était d'un avant-garde, alors que c'était que le produit d'une erreur.
Oui. Voilà,
tout ça, ça, c'est très drôle.
Et Claude Régis, vous disiez que vous flottiez, Bulogier. Il parlait de votre flottaison.
Oui, oui, oui. Bon, ça, c'était au téléphone. Allô, Bulle, alors tu flottes? Oui, non, mais ça...
Mais c'est une bonne chose de flotter, non?
Oui.
Justement dans le chaos. C'est la seule façon de ne pas se noyer?
Oui, oui, peut-être. Peut-être, oui. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pratiqué.
Et bien plus tard, Bulogier, vous racontez quand vous avez travaillé sur un texte de Yon Foss avec Patrice Chéreau en 2010.
Oui.
Et là, vous parlez aussi de l'apprentissage du texte, puisqu'on parle du texte, de l'oubli. Et puis, il y a un moment où vous oubliez le texte. Et alors, Patrice Chéreau est furieux et rentre chez lui.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et vous dites que ça vous a appris quelque chose ou... Qu'en tout cas, vous l'avez bien pris, ce moment-là. Ça fait avancer.
Ben, ça veut dire que le lendemain, je savais mon texte.
Parce qu'il n'est pas seulement parti, il a lancé une chaise sur scène.
Voilà. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que la veille, il avait raconté une histoire en disant... Alors, je ne l'ai pas loupé, celle-là. C'était un opéra qui montait à Milan et il y avait une prima donna qui faisait toujours une erreur. Je ne sais pas si c'était de mise en scène ou de musique ou de je ne sais pas exactement quoi. Et à un certain moment, il était furieux. Il lui a lancé une chaise sur scène à ses pieds. C'est quand même une prima donna, une chanteuse d'opéra. Et le lendemain, on fait un filage et hop, comme d'habitude, à un certain moment, je bloque sur le texte et je reçois la chaise au pied. Il m'a jeté la chaise. Moi, je suis partie en loge. Il a dit j'arrête la répétition. Et je me suis dit, j'ai pas signé mon contrat. Qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi. Finalement, c'est que du théâtre, pas tout. C'est pas grave. Et puis finalement, je me suis dit non, il a raison, Patrice. Et il faut faire quelque chose. Puis le lendemain, ça allait. Voilà, j'ai accepté cette humiliation presque, peut-on dire. Et l'acteur, il est très sensible aux humiliations. Et ça, c'est une humiliation venant de Patrice, avec lequel j'avais partagé beaucoup de choses. C'était extrêmement douloureux, on peut imaginer.
On va écouter une autre voix qui est importante et dont vous parlez, c'est celle de Luc Bondy.
C'est pas seulement une des personnes que je préfère au monde, je peux le dire. Et non seulement ça, mais moi j'ai vu Bulle, on ne se connaissait pas du tout. J'ai vu Bulle, je sais pas dans quelles années, ça doit être autour des années 67, dans Les Idoles. J'étais impressionné de voir une actrice bouger avec tellement d'énergie sur scène et tellement de force et de tellement de présence que cette impression m'était restée. Après, j'ai vu Bulle vomissant dans le film de Buñuel avec un tel comique. Alors je me suis dit, mais celle-là, Bulogier, je me souviens, ça c'est une actrice qui me plaît, je voudrais absolument travailler avec elle. Voilà que maintenant, je fais la troisième mise en scène à Paris. Il n'y a pas de mise en scène sans Bulle. Et sans doute que, et ça va peut-être décevoir d'autres actrices quand elles entendront ça, mais il n'y aura pas beaucoup de mise en scène de moi sans Bulle. Je ne peux pas m'imaginer. C'est quelqu'un qui a, bien que, il faut tout de suite que je dise que sa méthode de travail est extrêmement... Dans toute l'angoisse et dans tout ce qu'on peut s'imaginer, qui fait que dès le début, elle dit qu'elle n'y arrivera jamais, puis que finalement, au fond, elle ne le fera pas, et puis qu'elle ne lira jamais la pièce, et que c'est absolument impossible pour elle de jouer ça. C'est quelqu'un qui travaille d'une manière, tout en disant qu'elle n'a rien fait, bien sûr, absolument d'une manière très, 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 très systématique et très, d'une manière absolument profonde à un rôle.
Thank you. bien souvent aussi ça, cette idée, Bulogier, que peut-être il y a quelqu'un qui ferait mieux les choses que vous. Souvent, vous pensez ça quand on vous propose un rôle.
Oui.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, c'est comme ça. Je le pense, profondément.
Et d'ailleurs, souvent, vous, ne serait-ce que pour le cinéma, vous dites, parfois, je n'ai pas répondu à Jean Eustache, je n'ai pas répondu à Arnaud Desplechin, j'ai pas... Il y a des choses que j'ai, comme ça, je suis passée à côté parce que peut-être je pensais que je n'étais pas assez...
Ah non, ça, c'est tout simplement parce que c'est par...
Par négligence.
Ouais, par négligence, exactement, parce que j'ai pas lu le projet, ou parce que j'ai pas répondu au téléphone, ou parce que j'ai pas rappelé, en tout cas en ce qui concerne Jean Eustache, voilà. Et Arnaud Desplechin, c'est tout simplement parce que c'est resté au bout de la table, en pile. C'est de la, ce qu'on appelle de la négligence, c'est de la bêtise en même temps, je pense. Un manque de discipline.
Évidemment, Bulogier, la présence puis la disparition de votre fille Pascale Augier est très, traverse tout le livre, tous les souvenirs. Et vous dites, j'ai joué le lendemain, je crois que c'était Savannah Bay, le lendemain de sa disparition. Et finalement, peut-être que être actrice ou être sur scène m'a sauvée. Le livre, il commence en disant, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis devenue actrice, je ne sais pas. Et puis finalement, il y a cette chose très forte qui fait qu'il y a une nécessité à un moment qui est venu.
Oui, j'ai été poussée par Marguerite, il faut dire aussi, et par Barbet Schroeder, et par Madeleine et Jean-Louis.
Et aujourd'hui, l'envie de monter sur scène, elle est présente ?
Aujourd'hui, non. Pas du tout.
Et ça, vous le dites aussi, depuis le départ, je suis devenue actrice, mais si je joue pas, ça me dérange pas.
C'est vrai. C'est vrai. Ça dépend, c'est toujours pareil. Ça dépend de ce qui va arriver, vous voyez. J'aime bien que ce soit une aventure parallèle au théâtre. Pas seulement du théâtre.
Le troisième album de La Féline s'appelle « Vie future ». Il parle du cycle de la vie. Il a été écrit à un moment où une disparition se superposait à une naissance, où l'immense peine et l'immense joie étaient collées. Il est donc traversé par de l'incertitude et des promesses. La Féline part en tournée cet automne et sera le 12 décembre au Café de la Danse à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les images ou en tout cas ce qui vous a accompagné dans l'écriture entre l'apparition et la disparition?
Il y a beaucoup d'images, mais étrangement, alors que ça se passait peut-être probablement au plus intime, puisque j'attendais un enfant et j'ai perdu l'homme qui m'a élevée, quasiment au même moment. Et j'avais des images de cosmos. Donc il y a toute une esthétique, en fait, de science-fiction dans ce disque, qui est par ailleurs un genre que j'ai toujours beaucoup aimé. De 2001, l'Odyssée de l'espace pour ce qui est du cinéma, au roman de Silverberg pour ce qui est de la littérature. Et donc oui, des visions cosmiques, à la fois le microcosmique et cosmique. Et puis finalement, le titre du disque s'est imposé, Vie future, parce qu'il y avait cet enfant qui arrivait. Et puis on parle beaucoup du futur, on est un petit peu hanté, inquiet par le futur, inquiété par le futur aujourd'hui. Je suis La Féline, nous sommes en studio avec Bulogier et Fanny Ardant. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charron. J'ai quitté la fête en pleine transe. Le jour pas encore levé. La route est trempée, quelle importance. Je préfère entrer à pied, baigné par les ondes, sueur tenace, puzzle de pensée.
française. La lune fait sa ronde, jeunesse passe, une tête dans d'autres réalités. Comme on se dérange, l'été si belle, monte le son, touche le ciel. Effet de nuit, marcher sans bruit, ciel blafard qui déchire dans un éclair la ville entière. De douceur cet hiver, le monde a changé, quelle importance. Nous sommes jeunes et nous sommes fiers. Comme on se dérange, l'été si belle, monte le son, touche le ciel.
L'autre personne qui a vraiment beaucoup compté quand même à cette période-là, c'est Marguerite Duras.
Mais Marguerite et Claude Régis aussi. Et Marguerite était peut-être une... C'était une copine, Marguerite. C'est quelqu'un de aussi d'invincible. C'est...
Invincible, indestructible, ah, inoxydable.
Ah, inoxydable.
Oui.
Robe pied de poule, col roulé, lunettes de grenouille et tête... extraordinairement vivante et vivace, avec des mots meurtriers, monstrueux, qui font d'elle la plus grande, qui donne d'elle une plus
poète,
la plus une humanité,
oui.
Comme Picasso peut-être humain, comme seuls les monstres le sont.
C'était un poète.
Oui, un poète total, poète aussi poète du silence. Elle fait exister les silences comme j'ai jamais vu. J'ai appris les mots de Marguerite par ses silences.
C'est la voix de Gérard Depardieu et la voix de Gérard Depardieu vous accompagnait, Fanny Ardant, dans le précédent spectacle Hiroshima, mon amour, que vous aviez imaginé avec Bertrand Marcos. Pourquoi là, vous avez eu envie, avec La Passion suspendue, de mettre en scène les mots de Marguerite Duras? Là, c'est plus une pièce qu'elle a écrite pour le théâtre, mais pourquoi cet endroit, c'est aussi l'endroit de ses propres mots, de sa parole, à l'intérieur d'un entretien?
Parce que je trouvais que dans cet entretien, il y avait l'intelligence du propos. Et que c'était encore plus fort de le dire, elle avait dû le faire dans les années 80. Et je trouvais très intéressant de le faire dans les années 2018, 19, 20, 21. Dans lesquelles il y a une forme de retour à l'obscurantisme, à une sorte de peur de la parole. Quand elle dit la littérature doit être scandaleuse, représenter l'interdit... Je pense qu'elle redirait les mêmes choses, parce que, mais c'est encore peut-être une plus grande jouissance de les dire à notre époque où tout le monde a peur de son ombre. Donc c'était ça. Parce que c'était non seulement
des questions et des réponses, d'une intelligence foudroyante sur tout, sur la politique, sur le communisme, sur l'homosexualité, sur l'amour, sur la littérature, sur le sexe, avec une liberté de penser et une façon de les dire tellement littéraire. Donc, ça me plaisait.
D'ailleurs, un des premiers mots, puisqu'elle parle de son enfance, c'est le mot sauvage. Elle dit « j'ai un rapport presque sauvage ».
On lui demande quelque chose de sauvage et demeure en moi, maintenant encore. C'est-à-dire que ce que disait Gérard, c'est vrai qu'elle avait quelque chose d'invincible, parce qu'elle avait peur de rien, pas peur des journalistes avec leurs questions, ou avec les ghettos, quand elle dit qu'en France, elle était longtemps clandestine, que sur elle pesait une sorte de blackout. Donc, après on lui a reproché de prendre la parole, mais moi ça me plaisait que Libération, l'intelligence de Serge Joly, ça paraît inimaginable maintenant, où tout est normatisé, où rentre dans des... il faut parler d'à ce moment-là, de ci, où... elle me plaît pour tout ça, au-delà du fait d'être un grand écrivain. J'aime l'idée qu'elle était insolente et qu'elle disait exactement ce qu'elle avait envie de dire.
Et qu'est-ce qu'elle dit, par exemple, qui vous fait du bien? Une phrase que vous n'auriez pas pu, pas osé prononcer, ou vous aviez...
Ah non, non, parce que moi, je peux tout dire. Donc, c'est pas ça, mais... Bon, je lis très peu les journaux, j'écoute peu la radio ou la télévision, mais je sais quand même qu'il y a une forme de pensée commune, et même bien pensant, tout le monde est un bon citoyen, tout le monde fait bien les choses, donc t'as pas honte de ce que tu dis? Ben oui, je dis ça, et tant mieux si les autres ont honte pour moi. Donc c'est plutôt les outsiders qui me plaisent, et elles, et que tout d'un coup monter sur un plateau de théâtre, alors que bien sûr que c'est pas une pièce, bien sûr qu'il n'y a pas une sorte de désir de savoir ce qui va se passer, mais la richesse de la pensée et de la forme est telle que cette journaliste qui était remarquable et brillante, parce qu'elle on danse pas bien tout seul, donc elle l'a emportée à parler du communisme, de son engagement dans le parti, comment elle dit que tout, pour adhérer à un parti il faut être demeuré sourd ou aveugle. Ouais, elle sait qu'elle va se mettre à dos plein de personnes, mais elle s'en fiche.
Et c'est beau de mettre cette parole aussi sur une scène de théâtre aujourd'hui, oui. Parce que à l'intérieur de ses entretiens, elle parle aussi de sa foi en la scène, en le théâtre, oui. Qui pour elle est presque plus fort que le cinéma, ou en tout cas à la hauteur du livre.
Elle dit aussi que la richesse du théâtre, c'est le regard limité. Et pour l'avoir chacun vécu, moi-même quand je vais au théâtre, c'est comme une sorte de... c'est un pari qu'on fait dans le théâtre. C'est-à-dire qu'on va croire que ce type-là est Hamlet ou cette femme-là est Médée, alors qu'on est tous assis les uns à côté des autres. Donc c'est un grand pari. Et l'autre pari, c'est c'est que le spectateur, c'est le dernier metteur en scène. On regarde qui on veut. On regardera peut-être la personne qui bouge pas et qui ne parle pas, mais son écoute est telle. Donc, vous voyez, le fait de ne pas être comme un film où c'est monté, où on vous force à regarder celui qui parle ou celui qui écoute, c'est ça que je trouve magique dans le théâtre. C'est que le spectateur est le roi. C'est celui qui décide.
À un moment, on lui demande la différence entre une mise en scène de théâtre et un plateau de cinéma. Et elle répond « Le théâtre ne sera jamais un produit industriel. C'est quelque chose de vivant, un risque qui peut se renouveler tous les soirs. Le cinéma n'a rien à voir avec cette peur. Un film est sectionné et corrigé avant d'être offert au spectateur. »
C'est vrai. C'est absolument vrai. Parce que le fait du théâtre, ce qu'on écoutait avec Bull, cette espèce d'affrontement et d'entente, je trouve que oui, il y a un risque tous les soirs. Un risque qui dépend et des spectateurs et des acteurs. Parce que c'est vrai qu'il y a quelquefois des salles où les spectateurs ne sont pas bien. Mais pourquoi? On ne sait pas, c'est une alchimie. C'est pour ça que tous les jours, vous savez, quand on vous pose la question, mais en fait, au théâtre, vous recommencez tous les soirs pareil. Mais ce n'est pas vrai. Tous les soirs, c'est quelque chose de différent. À cause d'une certaine alchimie. Et de vous, et d'eux.
Et on a l'impression qu'elle jouait jusqu'au dernier moment aussi de ce risque, de ce présent, parce que Bulogier, oui. Vous parliez un peu de la façon qu'elle avait de réécrire, et elle en parle aussi dans l'entretien,
oui.
La façon dont elle s'acharnait sur les dialogues, oui. Elle les réécrivait chaque jour jusqu'à ce que les comédiens n'en puissent plus et lui disent
d'arrêter.
Là, il faut arrêter.
Oui, ça me plaît. et que même c'est une grande marque d'honneur à un acteur. Ça veut dire que l'acteur, de toute façon, on n'admire pas un acteur pour sa mémoire. C'est idiot. On admire un acteur pour ce qui se dégage de lui. Et que, tout d'un coup, d'avoir ce crédit de confiance dans un acteur en disant « Voilà, finalement, voilà ce que j'aimerais que tu dises. » Avec le risque, peut-être, qu'il ne le dise pas parfaitement, mais il aura saisi l'essence de ce qu'elle a changé, de pourquoi c'est si fort. Dans la répétition, j'aimais beaucoup qu'elle disait « Non, tu vois, ça a l'air des détails, mais tout est dans le détail. »
Au millimètre.
Elle. Oui, ça me plaît beaucoup, ça. Même si ça te finit en foire d'empoigne, ça aussi, ça me plaît. Parce que tout le monde a raison et tout le monde a tort. Et qu'il y a toujours une sorte de petite pellicule de ridicule dans les engueulades. Donc moi, ça m'a toujours fait rire.
Et maintenant, presque tous mes livres sont joués au théâtre. Les gens les prennent et puis ils les jouent.
Vous n'avez pas l'impression qu'en écrivant pour la représentation et en faisant représenter... Vous libérez en quelque sorte le texte qui est enfermé dans l'écriture.
Comme ça, oui. Je reconnais quelque chose, oui. C'est pas le libérer, c'est le lâcher.
Dans l'éphémère.
Oui, oui.
Dans un autre espace.
C'est un mot que j'emploie pas, alors j'ai du mal à le dire, mais je l'entends quand même, oui.
Disons dans un autre espace.
Dans un autre espace, oui.
Dans un autre temps.
Plus sonore, plus... Il n'y a plus d'écho, il n'y a plus lecture solitaire, c'est un espace un petit peu de prostitution, si vous voulez, un espace donc public.
Quel est l'espace du théâtre par rapport, par exemple, à la surface de l'écran?
C'est l'espace majeur. Rien ne se compare au théâtre. Si, les livres, si vous voulez. Mais le cinéma n'existe pas à côté. C'est complètement mineur. C'est un jeu d'enfant, enfin.
C'est l'espace majeur, selon Marguerite Duras-Fanny Ardant, le théâtre. Est-ce que vous êtes d'accord?
Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'elle dit, parce que moi, je m'ennuie très souvent au théâtre, alors que je m'ennuie rarement au cinéma, même pour un mauvais film. Donc, je tire la conclusion que le cinéma est de nature hypnotique. C'est-à-dire qu'il endort en vous une vigilance. Alors que quand vous êtes transporté par une émotion au théâtre, vous ne l'oublierez plus jamais. C'est-à-dire que peut-être vous allez 10 fois au théâtre, vous vous ennuyez 9 fois. Mais le jour où vous ne vous ennuyez pas, c'est extraordinaire et vous ne l'oublierez jamais parce que ça a à faire avec ce qui est suscité en vous, c'est votre intelligence, c'est votre instinct, c'est votre cœur, c'est vous qui êtes l'événement principal de ce qui est dit. Alors que le cinéma, c'est la danse des 7 voiles, gira gira dans la farine, hypnotique, mais aussi plaisir, grand plaisir.
Au début de l'émission, vous parliez de la voix de Marguerite Duras parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de la copier, de l'imiter, ni son rythme, ni... Mais comment vous diriez qu'elle est présente avec vous, alors, sur scène?
Mais justement, quand j'entendais Bulle parler, j'aurais beaucoup aimé connaître cette femme. J'aurais beaucoup aimé. Je suis sûre qu'en effet, ce que disait Bulle, c'est qu'elle devait être drôle, rapide, furieuse, tout ce qui me plaît dans la vie, tu vois, comme ça, comme des ciels changeants. Quand tout d'un coup, on me demande « qu'est-ce que tu aimerais jouer au théâtre ?» Alors longtemps, je cherche. Et puis, je finis toujours par dire un petit Duras. Parce que c'est vrai que je l'aime infiniment. Mais puis après, une fois que j'ai appris le texte, une fois que je suis sur scène, alors j'oublie, ça pourrait être Madame X ou Mademoiselle Y. Non, à partir du moment où je monte sur scène, ça m'appartient. Je peux le revendiquer.
Bulle Ogier, vous dansiez avec Marguerite Duras. Elle aimait danser après des journées d'écriture.
Oui, on dansait beaucoup. Après, avec le dîner, après, elle mettait. On allait dans un restaurant qui s'appelait le Baron à Montparnasse tous les soirs, plus ou moins. Et après, quand tout le monde était parti, elle demandait au restaurateur de mettre de la musique et on dansait.
Enfin, mais quelle musique?
Et c'était toujours de la musique italienne, là.
Mais des slow ou des rock?
Non, de la musique qui n'avait pas de rapport ni avec le slow, ni avec... ni avec
mais elle faisait
tango,
l'homme
ni...
ou la femme?
Non, elle faisait la femme, mais il y avait Yann, Andrea, quand oui. même, n'est-ce pas? Et puis...
J'aurais adoré.
Tout le monde dedans. C'était un moment de bonheur, oui. là. Oui.
Oui.
Et vers la fin de sa vie, vous l'emmeniez en voiture dans certains endroits où elle avait envie d'aller, c'était où par exemple qu'elle vous demandait?
Elle nous demandait d'aller à la voir une porte quelque part dans Paris, je ne sais plus exactement, ou à la Bibliothèque nationale, ou passer par les Tuileries, ou aller voir une ruelle quelque part. Je ne peux pas vous dire exactement où maintenant. Pas moi qui conduisais, c'était Barbé Chauder. On l'amenait, oui. Parce que là, elle ne pouvait plus conduire et voilà.
Et vous aviez imaginé kidnapper Marguerite Duras à la fin de sa vie avec Caroline Champetier et Dominique Isserman, Bulogier. Puis finalement, vous ne l'avez pas fait.
Oui, on avait imaginé demander à un serrurier d'ouvrir la porte, que la porte était fermée, la clé était perdue et puis aller la toucher, l'embrasser, les mains ou quelque chose, puisqu'elle n'allait pas bien, ça faisait 2-3 ans. Et puis après, franchement, on a dit que c'est pas nous qui nous occupons de Marguerite, c'est pas nous qui lui faisons à manger, qui s'occupe d'elle pour sa toilette, et pour dormir et prendre ses médicaments. Donc on a dit, mais de quel droit devons-nous, on aurait fait ça derrière le dos d'Andrea, de Yann? Mais son fils était d'accord, Outa.
Pour le kidnapping?
Non, pas pour la kidnapping, juste pour lui dire bonjour.
Pour l'entrée.
Oui, non, pas pour la kidnapper du tout, ça c'est une erreur. C'était juste pour lui faire un baiser.
Oui.
Pas plus, pour lui montrer un peu de tendresse en dehors de celle de Yann.
Et au tout début des entretiens, Fanny Ardant, elle dit « Je ne sais pas vraiment ce qui pousse les gens à écrire, sinon peut-être la solitude d'une enfance. » Elle parle de son enfance au Vietnam et puis elle dit « Mon écriture naît de là, entre les rizières, les forêts, la solitude, comme si ça n'avait jamais changé. »
Oui. C'est comme si elle pense que tout commence très tôt, que comme un peu le disque dur d'un ordinateur, il est à l'origine de toutes les impressions, mais presque rétiniennes, les odeurs, les sensations... que son écriture n'a rien avec des théories intellectuelles. C'est sur le vécu. Et c'est pour ça qu'elle dit que dans le passage, que c'est quelque chose en soi qui est déjà évident, mais qu'il va falloir trouer son ombre intérieure. Je trouve ça très fort, comme on l'a depuis la nuit des temps. Elle parle de 11 ans ou 12 ans quand elle commence à écrire des poèmes. Ça commence comme ça. Et qu'après, je pense que tout le monde aurait ce disque dur, puis il y a celui qui va faire toute sa vie de devoir et pencher sur la page ce qu'il y a à l'intérieur.
Bulogier, quand vous jouiez en 1965 avec le metteur en scène Marco, vous racontez qu'il y a un spectateur qui est monté nu sur scène, sur la scène du théâtre Édouard VII. Et vous dites aujourd'hui, on parle de théâtre immersif, on parle de liberté, mais finalement, je trouve le public beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus sage qu'avant. C'est vrai, ça?
Oui, je pense que si je l'ai dit, c'est que je l'ai pensé à ce moment-là. Mais
vous trouvez qu'aujourd'hui, on est plus sage?
Le public, hein. Oui. Enfin, c'était une époque aussi, vous savez, de happening, des choses comme ça, où il y avait... Ça, c'était un peintre, un sculpteur. Donc, maintenant, il ferait peut-être une performance au Musée d'Art Moderne ou je ne sais où, à Pompidou, vous voyez. Je ne sais pas, mais je crois que, en effet, comme disait Fanny, les gens sont cadrés, formatés et n'osent peut-être pas faire des choses aussi... C'est quand même monter nu sur une scène, au milieu d'une pièce de théâtre. C'est vrai que c'est quand même assez gonflé.
Vous le trouvez comment, le public, Fanny Ardant?
Mais même sans parler du public, regardez, pour rentrer à la maison de la radio, il faut passer des contrôles
C'est l'histoire de... On a toujours peur d'être... Que ce soit au théâtre, rentrer dans un édifice public. Il y a ce côté, marche à droite, tais-toi, baisse la tête, monte ton sac et on ne te dira rien. Donc on a essayé de domestiquer la masse. Donc le fait d'être un électron libre est quelque chose de très précieux. Peut-être que même à l'époque où le type est monté tout nu sur la scène, mais c'est de plus en plus difficile de venir faire à la radio, à la télévision, parce qu'ils se ferment comme si c'était Fort Knox, comme s'ils avaient peur de je ne sais quoi. C'est la peur qui a fait que tout le monde se dit « oui, mais si jamais, et si la police... » Peut-être que c'est des mouvements de pendule. Peut-être qu'il y a des grands moments de liberté. Moi, je pense que j'ai été d'une génération où il y a eu une grande liberté, que maintenant on rentre un peu dans une période d'obscurantisme. Et que voilà, moi je suis assez positive pour ce mouvement du pendule.
Peut-être qu'il va se passer quelque chose pendant La Passion suspendue.
Bah, qui le sait.
Je vous pose juste la dernière question dans l'adaptation de Bertrand Marcos des Entretiens avec Marguerite Duras. La dernière question, c'est est-ce que vous vous considérez comme seule?
Oui.
Vous répondriez quoi, vous, Fanny Ardant?
Oui. Mais que... Moi, je me dis toujours, je suis seule, mais j'attends quelque chose.
Et vous, Bulogier?
Moi, je pense que tout le monde est dans une solitude. Même à deux, même en famille. Mais c'est un peu triste, ça.
Pas forcément. Pas forcément. Parce que je pense que, tu vois, il y a la solitude subie, il y a la solitude voulue. Et puis il y a la solitude qui tout d'un coup est fracassée. Je trouve que la solitude permet de jouir des moments denses. Donc, mais c'est vrai que quand même, on meurt tout seul. On est malheureux tout seul. Mais que c'est pas si triste que ça. C'est presque excitant. Ça dépend toujours de ce qu'on va en faire. Et que si on a un côté comme si c'était victime, c'est comme si on est avec des cheveux noirs ou avec des cheveux blonds, ben on va faire avec. Et que ça va être comme à nous deux. À nous deux, la solitude comme un adversaire.
Chanson. Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout.
On a commencé avec le souvenir de Marguerite Duras au théâtre pour entendre à l'intérieur de deux corps d'actrice l'empreinte de ses mots et de ses silences. Fanny Ardant, du 25 septembre au 4 octobre, pour 10 représentations, jouera au Théâtre de l'Œuvre à Paris, La Passion suspendue. Bulogier, J'ai oublié, vient de paraître aux éditions du Seuil. Je dis merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, merci à Inès Duperron pour la préparation, à la technique ce soir, merci à Philippe Mercher et Victoria Asper. Vous écoutez France Culture, il sera bientôt 21h, c'est l'heure de Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson.
Son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson. De ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue, toi qui me parles.